un podcast France Culture.
Troisième jour de notre série sur l'économie des excès. Cette semaine, nous avons parlé de surtravail et de surconsommation. Venons-en à présent à la surproduction. La France produit de plus en plus de denrées alimentaires et les exporte massivement. Cependant, les revenus des agriculteurs, eux, sont à la baisse. Selon l'INSEE, 18% des ménages agricoles vivent même en dessous du seuil de pauvreté. Alors faut-il produire toujours plus à l'heure où la France importe plus de 80% de ses engrais ? Une autre agriculture est-elle possible et à quel prix ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons invité Eve Fouilleux en duplex de Montpellier, directrice de recherche au CNRS en sciences politiques, au laboratoire interdisciplinaire sciences, innovation, société et chercheuse associée au CIRAD, directrice avec Laura Michel de cet ouvrage « Quand l'alimentation se fait politique » paru aux presses universitaires de Rennes en 2020. Également avec nous à distance, David Makowski, directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, attaché à l'université Paris-Saclay, une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Tina Young, Léopold Thiévan et Inès Diender.
Par là, 300 hectares. Par là, 130 hectares. Par là, 100 hectares. Dans cette direction, 330 hectares. Je suis un agriculteur d'un type évidemment un peu particulier puisque cette exploitation comporte 800 hectares. Dans les environs, on l'appelle parfois l'usine, comment faut-il le comprendre? Et les maisons ouvrières que j'ai fait construire. Construisant des maisons, donc un investissement coûteux, il me fallait avoir un personnel qui puisse avoir du rendement. Et pour cela, avoir des machines très modernes qui permettent d'avoir le minimum de main-d'œuvre en temps et en argent dans le produit fini.
Bonjour Eve Fouilleux et David Makowski.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. La surproduction, voilà un terme qui semble adapté à l'agriculture française parce qu'on l'entendait dans cette archive de l'ORT de 1970. Il faut produire et produire plus que nécessaire pour exporter, Eve Fouilleux. Or, la France, c'est le sixième exportateur de denrées alimentaires au monde.
Alors oui, la France est un exportateur alimentaire très important. Elle importe aussi pas mal de ses denrées alimentaires. Et je pense qu'on aura tout le temps dans cette émission pour essayer de démêler tout ça. Mais ce terme de surproduction, il est plus vraiment actuellement utilisé. Il est un peu daté historiquement. Il renvoie plutôt aux années, effectivement, à la fin des années 70, aux années 80 et 90, quand on était en situation d'excédent structurel de produits agricoles dans le cadre de politiques publiques qui était celui de l'époque. C'est-à-dire qu'on a mis en place au début des années 60, tant au niveau national avec un ensemble de politiques dites des structures qu'au niveau européen avec la politique agricole commune, une politique des marchés particulièrement incitative à produire, avec l'objectif à l'époque, en 1962 quand on a mis en place la politique agricole commune, l'objectif c'était l'indépendance alimentaire. Et pour atteindre cet objectif, on a mis en place une politique très productiviste puisque elle était basée sur des prix institutionnels garantis.
Et on va retracer toute cette histoire parce que elle est passionnante et elle permet de comprendre aussi la crise agricole que nous traversons aujourd'hui en France, mais aussi en Europe. Peut-être d'abord, David Makowski, sur ce terme de surproduction, est-ce qu'il vous semble convenir ou est-ce qu'il vous semble un petit peu daté, comme le disait Eve Fouilleux ?
Eh bien, peut-être un peu les deux. Effectivement, c'est un terme assez ancien. C'est un terme qui correspond à une situation où l'offre en produits agricoles ou en produits alimentaires dépasse de manière importante la demande. Et on a eu effectivement dans le passé des crises importantes de surproduction en France, en Europe comme l'a mentionné mais aussi aux États-Unis, par exemple, lors de la crise de 29. La crise de 29, c'est un exemple frappant de surproduction. Les agriculteurs américains avaient investi massivement dans la production agricole pendant la Première Guerre mondiale pour justement compenser l'arrêt de la production agricole européenne pendant la guerre. Et à la fin de la guerre, finalement, les Européens se sont remis à produire. Et en plus, avec la crise de 29, la demande en matière première agricole s'est effondrée. Et à ce moment-là, les agriculteurs du Midwest se sont retrouvés dans une situation de surproduction et n'arrivaient plus à écouler leur production. Mais c'est aussi un terme qu'on retrouve dans l'actualité, alors dans des proportions quand même moins dramatiques, mais si on prend le cas de la France, ces deux dernières années, certaines personnes considèrent que certains produits issus de l'agriculture biologique sont en surproduction, par exemple pour le lait ou pour les œufs, où certains agriculteurs bio doivent finalement vendre leurs produits, non pas comme des produits bio, mais comme des produits conventionnels, car ils n'arrivent plus à les écouler sur le marché.
Oui, là où on pourrait parler de surproduction FOUE, c'est dans la mesure où en France, on produit bien plus que ce que l'on consomme, mais toutefois, on trouve des débouchés à l'étranger pour exporter ces excédents agricoles.
Oui, absolument. On exporte, par exemple, massivement. Enfin, on a un taux d'auto-approvisionnement de 300% sur les orges. On exporte massivement de la poudre de lait écrémé, du blé tendre, de la poudre de lactosérum, du sucre, du blé dur. On exporte. On a tout un tas de produits qu'on peut considérer qu'on surproduit dans la mesure où on les exporte. Sauf que politiquement, c'est accepté, mais ça s'appelle les exportations. Ce que je voulais souligner tout à l'heure, c'est la distinction, le contraste qu'il peut y avoir entre des volumes qui étaient considérés comme excédentaires et ennuyeux parce qu'ils coûtaient au budget européen, parce qu'il fallait les stocker, parce qu'on les relarguait sur le marché mondial de façon très coûteuse et en provoquant des problèmes politiques avec nos partenaires commerciaux, en l'occurrence les Américains ou les pays du groupe de Cairns. Donc, à l'époque des années 70, 80, 90, à l'époque où ce terme de surproduction était un terme clé du débat politique sur la politique agricole, en effet, c'était un problème. Mais en fait, on a continué, on a changé de politique agricole commune, on a transformé cette politique qui passait par des prix institutionnels garantis en aide directe, c'est-à-dire qu'au lieu de soutenir les agriculteurs qui produisaient le plus, on soutient maintenant ceux qui ont les plus grandes surfaces. Et en fait, ça revient à peu près au même. Et donc, on ne pose plus le problème en termes de problème politique de surproduction, mais on exporte et c'est plutôt présenté comme quelque chose de très positif, puisque oui, les agriculteurs font valoir le fait qu'ils participent au rétablissement du déficit de la balance commerciale. Et ça, c'est le cas pour à la fois des produits qu'on exporte en grande quantité, comme ces céréales ou la poudre de lait, poudre de lactosérum que je mentionnais tout à l'heure. Alors, on l'exporte soit sur le marché européen sous forme d'alimentation du bétail, aussi vers la Chine. Mais c'est aussi le cas, par exemple, du vin ou des fromages, qui sont des produits à forte valeur ajoutée et qui sont très fortement mis en avant comme un atout de la France sur le marché mondial des produits agroalimentaires.
Oui, vous avez raison de le souligner, FOUE. Nous exportons beaucoup, à la fois en volume et en valeur, et ce sont des exportations de produits agricoles et de produits alimentaires qui ne cessent d'augmenter.
Oui, alors les exportations, enfin le commerce extérieur de produits agroalimentaires entre 2000 et 2022 est sur une tendance croissante, de même d'ailleurs que les importations. Hein. Mais en tout cas, ça augmente de façon, on était à 20 milliards d'euros d'exportations en 2000, on est aujourd'hui à plus de 60.
Et alors donc, comment expliquer qu'en 20 ans, la France soit passée du deuxième rang au sixième rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles, David Makowski?
Alors effectivement, on est dans un contexte où le marché international agroalimentaire est très fortement croissant. En fait, le marché agroalimentaire, certaines estimations indiquent qu'il a triplé en valeur depuis les années 2000. Donc vous voyez, en deux décennies, le marché s'est vraiment développé de manière importante. Et donc dans un contexte comme celui-ci, de marché croissant, il n'est pas effectivement quelque part illogique que les exportations augmentent, puisque la demande en fait est de plus en plus forte. Cependant, effectivement, certaines filières agricoles et agroalimentaires françaises se questionnent parce que dans un marché aussi porteur, on aurait pu imaginer finalement que la position de la France soit préservée en termes de gros exportateurs. Et ça ne s'est pas totalement passé comme cela pour plusieurs raisons. Mais une des premières raisons, c'est qu'il y a eu finalement de nouveaux concurrents. Notamment du côté des pays de l'Est, du côté notamment de l'Ukraine, qu'on mentionne souvent dans les débats actuels, mais aussi de la Russie. Si vous prenez l'Ukraine et la Russie, en fait, leur production agricole a considérablement augmenté et leur part dans les exportations de certains produits agricoles de base, hein, par exemple blé notamment, le tournesol ou d'autres cultures de ce type-là, ont considérablement augmenté. Alors comment ils ont fait ? Eh bien, ils ont joué sur deux facteurs. En fait, une offre agricole, en tout cas pour les productions végétales, c'est une surface cultivée multipliée par un rendement. Un rendement, c'est une productivité par hectare, c'est la quantité produite par unité de surface. Et en fait, si vous regardez la Russie et l'Ukraine, et en fait, ils ont joué sur les deux facteurs. Ils ont augmenté leur surface et ils ont augmenté leur rendement. Nous, en Europe de l'Ouest, et en France en particulier, on peut difficilement augmenter nos surfaces. On cultive déjà à peu près tout ce qu'on peut cultiver.
Quant au rendement, c'est également difficile également de les de l'augmenter pour ce qui est de la France, David Makowski.
Si vous prenez, enfin, il n'y a pas que la France. Si vous prenez la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, en fait, on se caractérise par des rendements records. On a souvent, en fait, les rendements maximum pour certaines cultures comme le blé, comme l'orge, comme le maïs. On a des rendements très élevés et on atteint une sorte de plafond qu'on a du mal à dépasser. Donc, on se retrouve en concurrence avec finalement de nouveaux acteurs orientés vers l'exportation qui ont à la fois des réserves de surface agricole disponibles, mais en plus une marge de progression concernant les rendements importante. Alors, il faut savoir que l'Ukraine et la Russie ont des rendements encore bien inférieurs à la France. Si vous prenez par exemple les rendements de blé de la Russie, ils sont même pas à la moitié, si vous prenez les rendements moyens, hein, ils sont même pas à la moitié du rendement moyen de blé des agriculteurs français. Alors pour l'Ukraine, ils sont un peu plus élevés, mais ils ont encore une grosse marge de progression s'ils le souhaitent. Alors est-ce qu'ils vont intensifier leur agriculture pour augmenter les rendements ? On ne sait pas. En fait, c'est pas totalement sûr parce qu'il faut des gros investissements, mais en tout cas, ils ont plus de marge de manœuvre que l'Europe de l'Ouest et que la France en particulier, notamment pour les céréales.
Est-ce fouilleux sur la concurrence, la nouvelle concurrence de ces pays exportateurs de produits agricoles ?
Je ne sais pas exactement les questions que j'ai l'habitude de travailler, ces questions de concurrence, je ne saurais pas quoi vous répondre.
Mais ce que vous commencez à nous dire tout à l'heure et qui intervient dans cette question hein, que l'on se pose autour de la surproduction et qui nous questionne, c'est que on a d'un côté cette surproduction agricole qui permet à la France d'exporter, on l'a dit, et en même temps, la France est très dépendante des importations pour se nourrir. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème, un manque de souveraineté alimentaire en France, Fouilleux ?
Je pense qu'il faut poser le problème de façon plus précise. On va dire, on n'est pas dépendant des marchés internationaux pour nous nourrir. On est dépendant pour continuer un modèle agricole qu'on a choisi dans les années 60. Ça veut dire qu'on exporte, par exemple, pour exporter de la poudre de lait, on est dépendant très fortement aux importations de tourteaux de soja qui viennent majoritairement du Brésil et qui nous permet de donner leur ration protéique aux vaches qu'on élève pour faire du lait et qui donne cette poudre de lait, cette poudre de lactosérum qu'on exporte massivement sur les marchés internationaux. Donc l'enjeu, c'est effectivement de éventuellement questionner ce but ultime qui serait d'exporter absolument, si en plus ça nous lie par le besoin d'importer du tourteau de soja qui en plus pose un tas de problèmes environnementaux et sociaux dans les pays de production. Je pense qu'on y reviendra. Et autre problème, c'est que on exporte, on a fait ce choix. Alors si je reviens sur les dépendances à l'importation, on est dépendant à l'importation sur donc ce soja, sur de l'huile de palme, sur les produits type fruits tropicaux. On est dépendant effectivement en viande ovine, où on importe un peu de la viande ovine massivement. Et on est dépendant des produits qu'on produit pourtant beaucoup, comme le beurre. Mais on peut pas dire qu'on est dépendant des importations pour nous nourrir. On est dépendant des importations dans un système compliqué qui fait que, par exemple, alors qu'on importe du soja, des tourteaux de soja pour nourrir nos animaux, on exporte quand même du soja, par exemple, vers la Chine, qui est notre premier acheteur, et on a 11% de notre production de soja. On exporte environ 22% de notre production de soja et 11% vers la Chine. Donc, on est dans un système qui est un peu complexe et c'est difficile de dire que on est complètement dépendant.
Oui, la France a fait des choix, en effet, des choix agricoles qui expliquent qu'aujourd'hui, en 25 ans, la part de la nourriture française importée est passée de 10 à 20%. Alors justement, comment la France est-elle devenue une puissance agricole? Revenons quelques décennies en arrière. Vous commenciez à en parler, Fouilleux, 1957. C'est le traité de Rome qui prévoit la création de la PAC, la politique agricole commune. Et à l'époque, le premier objectif de la PAC, c'était précisément d'accroître la productivité de l'agriculture, mais pour assurer l'indépendance alimentaire de la France et de l'Europe, plus que pour exporter à ce moment-là.
Absolument. À l'époque, on sortait d'une période de pénurie alimentaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait produire pour nourrir la population. Ça, c'était important. La politique agricole commune, c'était aussi un signe de réconciliation avec l'Allemagne, la construction du marché commun agricole. Et on était dans une phase très importante des politiques agricoles françaises et européennes, parce qu'elles informent directement la période actuelle, qui était la volonté de moderniser l'agriculture, c'est-à-dire la mécaniser, agrandir les exploitations, former les jeunes agriculteurs au modèle de l'agriculture dit moderne, c'est-à-dire basée sur de la mécanisation, sur l'utilisation d'engrais chimiques, de semences hybrides et de pesticides, et les inciter à s'installer sur ce type de... inciter les jeunes agriculteurs à s'installer sur ce type de modèle. Et donc, on a mis en place des politiques qui allaient dans ce sens. La politique agricole commune, elle, en incitant fortement à produire à travers des prix institutionnels garantis, elle était dans cette approche productiviste. Et au niveau national, on a mis en place ce qu'on appelait à l'époque des politiques des structures, qui visaient à changer les structures agricoles, c'est-à-dire à permettre l'agrandissement, permettre une sortie massive du secteur, puisqu'il fallait, c'était pas un problème à l'époque, il fallait reconstruire la France. Et donc la main-d'œuvre qu'on sortait du secteur agricole, elle est partie dans les usines d'automobiles ou de construction. De construction des villes, enfin de reconstruction des villes. Et donc on était vraiment sur une approche de modernisation de l'agriculture, et ça a très très bien marché. Les surfaces agricoles se sont agrandies, donc c'est ce qu'on a appelé les politiques de remembrement, avec la réorganisation du parcellaire, etc. Et ça a très bien marché, donc, puisque dès les années 70 on a commencé à avoir ces premiers excédents dont on parlait tout à l'heure.
Notre sol français, c'est un sol qui produit beaucoup. On est assez bien qualifié pour tous les exploitants sont assez bien qualifiés pour le faire produire, et ils seraient embarrassés de leurs produits. Ils se retrouveraient avec des montagnes, des silos de blé encombrés, des montagnes de maïs et tout. Parce qu'il faut, c'est pas le tout de produire, mais il faut vendre. Et pour vendre, il faut avoir quelqu'un qui vous l'achète.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous parlons de la question de la surproduction agricole avec Eve Fouilleux et David Makowski. Alors, il faut vendre, en effet, dans les années 70, vous l'avez dit, Eve Fouilleux, c'est le problème. Il y a des excédents agricoles, mais ils sont difficiles à écouler sur les marchés internationaux. C'est dans ce contexte que la politique agricole commune a été réformée.
Oui, elle a été réformée à partir de 92. Et il y a eu toute une série de réformes successives jusque dans le milieu des années 2000 qui étaient basées sur l'idée de ne plus intervenir directement sur le prix, sur le marché en fait. Et donc on a mis en place un système de politique qu'on appelle découplé du marché. C'était la grande époque du découplage. Et donc on est passé d'un système qui soutenait les prix à travers des prix garantis, qui impliquait, c'était aussi toute la phase de libéralisation, c'est-à-dire que ça impliquait ces prix garantis des droits de douane aux frontières, et ce système d'intervention et de stockage qui coûtait énormément d'argent au budget public européen. Et donc sous la pression à la fois des partenaires commerciaux qui voulaient démanteler ce système protectionniste, et sous la pression de la volonté politique de dirigeants européens de l'époque de développer d'autres politiques européennes, on a voulu arrêter l'explosion du budget européen et on a transformé ces prix garantis en aides directes. Et des aides directes qui sont basées, elles étaient calculées à l'époque sur des rendements de référence d'une période historique, et elles sont donc basées sur la surface détenue par les exploitants agricoles. Mais on est en termes d'effets redistributifs sur le même type de politique. C'est-à-dire qu'avant, plus on produisait, plus on était soutenu par le budget public. Maintenant, plus on a de surface, plus on est soutenu.
Oui, David Makowski, aujourd'hui, la politique agricole commune soutient une agriculture européenne largement tournée vers l'exportation, avec cette logique productiviste qui n'a pas changé.
Alors, c'est vrai que la production agricole française et des autres pays européens en général, alors pas forcément sur le même produit, mais c'est la même tendance, s'adresse à une demande duale, en fait. À la fois une demande interne, nationale, et une demande internationale. C'est le cas, par exemple, en France, pour deux produits emblématiques français, hein, le blé et le vin. Si vous regardez effectivement la production de blé française, une bonne moitié est destinée à l'export, mais une bonne moitié est destinée à la consommation interne. Mmh. Si vous regardez la production de vin française, une partie est destinée à la consommation locale et une partie est destinée à l'export. Et en soi, c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir un double marché. Ça permet finalement de... Quand il y a un marché qui flanche, si l'autre marché se porte bien, finalement, ça permet d'assurer un débouché. Si vous regardez, par exemple, la consommation française, elle a fortement évolué. La première moitié du XXe siècle, hein, on consommait quelque chose comme 500 grammes de pain par personne et par jour. Si vous regardez la consommation de pain d'un Français maintenant, c'est moins de 200 grammes. Donc ça veut dire, vous voyez, on consommait quasiment deux baguettes par jour et par personne dans les années 1940-1950, alors que maintenant, on consomme une demi-baguette. Et si vous reprenez la consommation de vin, elle a considérablement évolué aussi. La consommation de vin des Français a considérablement chuté. Et d'ailleurs, la surproduction de vin qui touche actuellement la France est en grande partie due à une baisse, en fait, du marché local. À l'international, les exportations de vin haut de gamme se portent toujours plutôt bien. Hein. Donc en fait, c'est deux marchés complémentaires qui, finalement, diversifient les débouchés de l'agriculture française.
Un double marché, qui n'est pas une si mauvaise idée pour vous non plus, Fouilleux, ce marché tourné à la fois vers le marché intérieur et vers l'exportation.
Alors je regarderais pas les choses vraiment comme ça, parce qu'effectivement il y a deux marchés, ils sont complémentaires, mais en fait si on pose la question du point de vue de l'intérêt ou de la façon dont les effets redistributifs se font sur les agriculteurs, c'est aussi l'agriculture française elle ne permet pas, enfin elle permet à un certain nombre d'acteurs de bien vivre, et en particulier par exemple les viticulteurs qui exportent leur vin, ils ont des revenus tout à fait élevé et ils s'en sortent très bien, alors que d'autres acteurs qui comme vous le mentionniez sont sur le marché français, c'est pas les mêmes acteurs en fait, et ils ont des revenus qui sont presque négatifs.
Donc théoriquement le fait qu'il y ait comme ça un marché complémentaire, ça pourrait être une bonne idée, mais dans les faits, ce que vous nous dites, Fouilleux, c'est que ça ne marche pas très bien.
Pratique, non, ça marche pas très bien, on l'a vu. Mais après, il y a toute une médiation politique autour de ça qui fait que les choses sont pas très facilement visibles. Il faut aller regarder vraiment les revenus des uns, les revenus des autres, le positionnement politique des uns et des autres, et pour bien comprendre ce qui se passe. Et on pourrait aussi avoir le même raisonnement, mais peut-être on aura le temps de le faire plus tard dans l'émission, autour des effets environnementaux de ces modèles agricoles.
Évidemment, il faudra évoquer ces questions qui sont fondamentales. Peut-être pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui il y a toute une partie du secteur agricole européen qui s'organise autour de la conquête des marchés marchés internationaux. Il faut rappeler, David Makowski, et vous avez commencé à le dire, hein, que la demande mondiale ne cesse d'augmenter. La demande de céréales en particulier augmente et va continuer à augmenter.
Alors, tout à fait. En fait, si vous regardez le... En fait, la demande, qu'est-ce que c'est que la demande? La demande, elle est tirée par la démographie et puis les régimes alimentaires. Les situations sont très contrastées selon les régions du monde. Si vous prenez, par exemple, l'Europe de l'Ouest, notre démographie est pas très dynamique et nos régimes alimentaires évoluent dans un certain sens qui n'est pas forcément le même que dans d'autres pays ou d'autres régions du monde.
Je mentionnais
par exemple la consommation de pain en France, qui a chuté au cours du siècle. Hein. Si vous prenez par exemple la consommation de blé des pays asiatiques, elle est en croissance soutenue. Et au contraire, dans ces régions du monde, par exemple au Japon ou en Chine, c'est la consommation de riz par habitant qui chute.
C'est une nouveauté, hein, ce passage au Japon et en Chine à une consommation qui s'appuie plus sur le blé que sur le riz.
Exactement, c'est quelque chose de relativement récent qui s'explique de différentes manières, mais qui est très net et qui conduit parfois à des formes effectivement de surproduction locale de riz. Hein, notamment au Japon, ils cherchent pas particulièrement à augmenter les rendements de riz au Japon. Au contraire, ils cherchent plutôt à maintenir un niveau de qualité élevé, mais peut-être en perdant un peu de production. Et en fait, ils deviennent de plus en plus dépendants en fait des productions de blé qui sont produites dans d'autres régions du monde, en partie en Europe, mais aussi aux États-Unis. Hein. La tendance de certaines filières à chercher des débouchés à l'étranger est aussi due à cette évolution en fait assez contrastée entre la demande alimentaire européenne et la demande alimentaire dans d'autres régions du monde, que ce soit en Asie et en Afrique en particulier.
Il faut dire aussi que la production de céréales se prête particulièrement à l'exportation massive, David Makowski.
Alors oui, c'est un produit qui se conserve bien, mais qui demande quand même une logistique assez complexe. Hein. Si vous voulez, le fait que la production de céréales ou d'autres grandes cultures, Ève mentionnait le soja quelques minutes tout à l'heure, le fait qu'il y ait une spécialisation importante, c'est aussi dû à des besoins logistiques très importants qui nécessitent des investissements massifs. Il faut savoir que ce qui explique les différences de compétitivité entre les régions productrices de céréales ou d'autres grandes cultures comme le soja, c'est d'un côté les coûts de production au niveau de la ferme, mais aussi tout ce qui est stockage et transport. Ce qui explique par exemple que la France soit encore compétitive au niveau international pour l'exportation de blé, c'est pas ses coûts de production au niveau des exploitations agricoles. En fait, les coûts de production français sont quasiment deux fois supérieurs aux coûts de production des agriculteurs russes, par exemple, vous voyez.
En revanche, elle a une logistique extrêmement efficace.
En fait, si vous ajoutez à ces coûts de production les coûts de stockage et de transport, là, vous regardez, si vous ensuite comparez les coûts totaux, vous verrez qu'en fait, le coût total d'une tonne de blé produite en France, si on inclut donc le stockage et le transport, est à peu près comparable pour le coup au coût d'une tonne de blé russe. Donc c'est là où la France a un avantage important, compétitif, c'est sur tout ce qui est stockage et transport.
Oui, parce qu'il y a le port de Rouen, qui est un immense port céréalier, et puis il y a la Seine, qui est utilisée pour acheminer les céréales, en particulier, David Makowski.
C'est une sorte de mini-Mississippi pour la France, vous voyez. Le Mississippi a joué un rôle clé pour l'exportation des productions agricoles nord-américaines. En fait, le Mississippi, c'est un fleuve qui traverse les États-Unis du nord au sud, et qui traverse un des greniers mondiaux majeurs, qui est la Corn Belt. Pour exporter sa production agricole, les États-Unis utilisent le Mississippi, qui transporte notamment le soja jusqu'au golfe du Mexique, où il est exporté dans différentes régions du monde, notamment en Europe et en Asie via le canal de Panama. C'est grâce à ce Mississippi que les États-Unis, grâce à un coût de transport finalement très bas, arrivent à rester compétitifs par rapport au soja brésilien, qui, lui, a un coût de production inférieur aux agriculteurs américains, mais par contre des coûts de transport nettement supérieurs, puisqu'en fait, le soja est transporté par des camions, en fait, au Brésil, jusqu'aux ports qui ensuite desservent l'Atlantique et le canal du Panama.
Fouilleux.
Je voulais souligner quand même que si la France exporte autant et en partie compétitive sur les marchés internationaux, c'est aussi que les agriculteurs français sont perfusés d'aide publique et que ça nous coûte quand même très cher d'exporter tout ça. On a presque 9 milliards d'euros de la PAC chaque année. On a pour le premier pilier, on a 2 milliards du deuxième pilier. On dépense aussi un budget national conséquent pour l'agriculture et tout un tas de dépenses fiscales. Par an, on met dans le système alimentaire côté production 23,8 milliards d'euros. Donc ça coûte cher. Et ça coûte cher aussi en termes environnementaux. Je pense que c'est important de mettre en perspective ces éléments de lecture économique, de compétitivité sur les marchés internationaux et ce que ça coûte en termes à la fois de subventions et de coûts sanitaires et de coûts environnementaux qui sont payés par le budget public et par le contribuable.
Et oui, il va falloir entrer dans le détail effectivement de ce coût du productivisme agricole. On en parle juste après ça.
Les yeux semblent traquer, comment nourrir les bouches, les filles maillées et le linge brodé, v'là les automobiles, jusque sous nos fenêtres, Dieu veuille m'excuser, la lumière est mourante, il faut vendre la terre, il faut vendre les prêts. Il faut passer le bois, grand-mère tient la maison, pour quelques cutéreux, sans plus d'éducation, qu'elle travaille de nuit, foutue dans un dancing, de l'eau jusqu'aux chevilles, tout nous tient désolés. Il faut vendre la terre, il faut vendre les prêts. Enfant d'histoire d'amour, enfant de la liqueur, la bruyère inconnue va de ce petit feu. Nous avons tant d'ennuis, ne blâmez pas le père. Voilà le temps de vivre par les choses éphémères. Il faut vendre la terre, il faut vendre les creux. Du fond de mon sommeil, j'ai vu venir la flèche, nos vaches sous la pluie, prudemment descendaient, se mis dans le pétrin, à faire ce qu'on leur dit, les cœurs brûlants de fièvre, misère au nom de Dieu, il faut vendre la terre, il faut vendre les prêts. Voilà monde moderne et son cul plein de boue, accusant la montagne d'être obstacle à la joie, qui nous toise à travers ce devenir sombre, en tombée de la nuit, tiens nous v'là livre mort. Il faut vendre la terre, il faut vendre les prêts. Comme la lumière est grise, nous traversons les prés, quand récité par cœur et souvenir des lieux, reste de vie stagnant, comme reste une eau morte.
Premier bouquet,
misère au nom de Dieu, il faut vendre la terre, il faut vendre les prés.
Jean-Louis Murat sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, surproduction agricole, on exporte ce que l'on sème, c'est notre sujet aujourd'hui. La politiste F. Fouilleux et le directeur de recherche, la LINRAE, David Makowski, sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Noé Chabanne. Alors la planète comptait 1 milliard d'habitants en 1800, 8 milliards aujourd'hui, alors que la population mondiale continue à augmenter, faut-il produire davantage? Pour le dire autrement, la lutte contre l'insécurité alimentaire est-elle une question de quantité, F. Fouilleux?
Alors non, tous les travaux sur les causes de l'insécurité alimentaire dans le monde montrent que vraiment c'est pas du tout un problème de production. Les principales causes de l'insécurité alimentaire, c'est avant tout la pauvreté, c'est-à-dire l'offre alimentaire est là, mais les gens, par exemple dans les villes, n'ont pas assez de revenus pour acheter cette alimentation, et dans les campagnes, ils ont un déficit d'accès aux facteurs de production. C'est la principale cause. L'autre cause majeure, ce sont les guerres, les conflits ou les régimes autoritaires qui utilisent la faim comme une arme politique.
Donc, et vous citiez ce paradoxe de Sikasso à Anouk Milliot qui préparait cette émission pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, ce que vous pouvez nous expliquer.
Alors, le paradoxe de Sikasso, c'est l'illustration de ce problème-là au niveau local. En effet, Sikasso, ce sont des travaux qui ont été faits par les économistes de Moïsa ces dernières années. Sikasso, c'est la région du Mali qui est la plus productive en produits agricoles et avec en plus une production très diversifiée. Et donc, on devrait s'attendre à avoir un taux de sécurité alimentaire important dans cette zone-là. Et en réalité, au grand étonnement des économistes qui ont fait ces études, c'est aussi la région où il y a le taux d'incidence de la malnutrition qui est le plus important chez les enfants. Et en fait, ça s'explique non pas, donc ça montre bien que l'insécurité alimentaire au niveau local n'est pas liée à la quantité, à la production alimentaire en présence, mais à des enjeux sociaux. Là, en l'occurrence, c'est des problèmes de travail des femmes, de surtravail des femmes qui ne peuvent pas s'occuper de l'alimentation correctement de leurs enfants. Et ça s'est retrouvé ensuite dans cette étude, elle a été répliquée dans plein d'études de pays, notamment d'Afrique subsaharienne, au Burkina. Dans plusieurs pays, on a retrouvé les mêmes données.
Est-ce qu'il ne faudra pas augmenter la production dans certaines régions du monde, puisque d'autres, touchées par la hausse des températures, verront leur rendement diminuer, David Makowski?
Alors, en fait, il y a plusieurs questions dans votre question. Mais effectivement, il y a des régions du monde où il y a un potentiel d'augmentation du rendement important. Donc des écarts importants entre le rendement actuel et le rendement potentiel. C'est notamment le cas en Afrique, où finalement une modernisation de l'agriculture pourrait conduire à des augmentations de rendement très importantes. C'est beaucoup moins le cas en Europe de l'Ouest, puisque là, on est quasiment au rendement potentiel pour de nombreuses productions et où les marges de manœuvre sont faibles. Par contre, dans d'autres régions d'Europe, notamment en Europe de l'Est, vous avez encore des marges de progression importantes pour les rendements, ainsi qu'en Russie. Et aussi, on l'oublie parfois, mais aux États-Unis, ils ont des rendements qui ne sont pas si élevés que ça.
Donc, ce sera possible d'augmenter les rendements. La question, c'est est-ce que ce sera souhaitable, David Makowski? Est-ce que ce sera nécessaire?
Oui, probablement que globalement, au cours des 40 prochaines années, enfin, en tout cas, si on regarde la masse des études qui ont été publiées ces dernières années, et si vous regardez les synthèses qui ont été réalisées sur cette masse d'études, globalement, on anticipe une augmentation des besoins en calories d'environ 40% au cours des 30 à 40 prochaines années. C'est à peu près ça que disent les études publiées dans la littérature scientifique. Donc oui, il faudra augmenter, au moins dans certaines régions, la production agricole, soit en jouant sur les surfaces, soit en jouant sur les rendements. C'est toujours les deux leviers qu'on a. Mais en fait, il y a une incertitude en fait autour de ce besoin d'augmentation qui est lié en grande partie finalement au régime alimentaire. Selon en fait le type de régime alimentaire adopté par en fait les grosses zones très denses en population, on n'a pas les mêmes besoins. Si plusieurs milliards d'habitants se mettent à consommer beaucoup plus de viande qu'avant, forcément les besoins d'augmentation en fait de production agricole seront beaucoup plus importants que si cette augmentation de la consommation de viande reste modérée. Donc en fait le régime alimentaire joue un rôle majeur également dans la demande.
Sauf qu'augmenter les rendements, cela veut dire augmenter notamment les intrants chimiques. Or, on connaît l'impact sur l'environnement de l'usage de ces intrants, usage qui est par exemple croissant en Chine, est fouilleux.
Il est croissant aussi en France, hein. Et effectivement, les effets des notamment de l'utilisation des pesticides, c'est la pollution des nappes phréatiques, c'est la pollution qui est de plus en plus dramatique en France, c'est la pollution des eaux de surface. Il y a 13 000 captages d'eau qui ont été fermés dans les 10 dernières années, avec 30% pour des raisons de pesticides. Donc on a une menace directe sur la ressource en eau, et ce qui est, c'est aussi une menace sur la biodiversité. On a moins 30% d'oiseaux des zones spécialisées des zones agricoles en 30 ans en France et en Europe. On a les mêmes types de statistiques sur les papillons, les insectes pollinisateurs. Et donc, on a aussi des travaux qui montrent les effets délétères des pesticides sur la vie du sol et même sur les vers de terre eux-mêmes. Donc, on a vraiment une utilisation de pesticides qui, finalement, est une façon de se tirer une balle dans le pied en tant qu'agriculteur.
Je parlais de la Chine parce qu'il y a vraiment eu une explosion de l'usage de ces intrants chimiques ces dernières années, avec une volonté, justement, David Makovsky, d'augmenter les rendements, une volonté politique assez forte.
Oui, tout à fait. En fait, la Chine souhaite renforcer sa souveraineté alimentaire. C'est un gros importateur de produits alimentaires. C'est aussi un gros producteur de produits agricoles, la Chine, mais elle ne produit pas assez pour nourrir sa population. D'autant plus que c'est une population qui n'est pas tellement croissante démographiquement à l'heure actuelle. On est plutôt dans une stagnation, voire une diminution de la population. Mais c'est une population qui modifie son régime alimentaire vers plus de blé, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi plus de viande, en fait, dans son régime alimentaire. Et on sait que plus on mange de viande, eh ben plus il faut de matières premières pour nourrir les animaux, et donc plus il faut produire en fait de céréales et puis de légumineuses pour nourrir ces animaux. Et pour essayer de renforcer sa sécurité alimentaire, sa souveraineté alimentaire, comme on dit maintenant, la Chine a une politique d'intensification massive en fait de ses systèmes de culture, notamment en encourageant les agriculteurs à appliquer beaucoup plus d'engrais, notamment beaucoup plus d'engrais azotés qu'avant. Donc en fait, pour un agriculteur chinois, l'engrais est quasiment gratuit en fait, grâce à un soutien financier de la part de l'État, et ça a conduit à des catastrophes écologiques majeures. Vous avez des fleuves, vous avez des lacs très 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 importants qui ont été pollués par ces engrais azotés, et on voit les résultats catastrophiques au niveau écologique. Et le gouvernement chinois a d'ailleurs pris conscience de ces effets négatifs, et c'est intéressant parce que quand vous discutez maintenant avec les collègues agronomes chinois, ils commencent en fait finalement avoir des programmes de recherche qui ressemblent de plus en plus aux programmes de recherche ouest européens, tournés vers des systèmes de culture économes en intrants, plus respectueux de l'environnement. Donc on retrouve en fait des débats finalement qui ont commencé il y a une dizaine d'années en Europe et en France en particulier. On voit ces débats émerger également en Chine à l'heure actuelle.
Ce qui est particulièrement inquiétant pour l'environnement, ce sont les nouvelles exploitations intensives en plein désert, par exemple, David Makovsky.
Alors, c'est vrai que la relation entre l'agriculture et la nature était quand même a toujours été très complexe. Souvent, on se dit bon, l'agriculture, c'est quelque chose d'un peu naturel, proche de l'environnement, etc. Mais quand on regarde l'histoire de l'agriculture, il y a beaucoup de contre-exemples, il y a des extrêmes, des caricatures qui soulèvent un certain nombre de questions. Vous avez effectivement en Arabie Saoudite une exploitation agricole qui en fait élève des dizaines de milliers de vaches laitières pour produire en fait des tous les produits laitiers que consomme abondamment en fait la population d'Arabie Saoudite. Donc c'est une exploitation qu'on qualifierait, nous, je pense, de totalement artificielle. Donc c'est une exploitation énorme en plein désert, avec des systèmes de brumisation des vaches qui leur permettent effectivement d'avoir une productivité laitière loin d'être ridicule. Et en fait, on pourrait effectivement penser que c'est pas un système durable, mais malgré tout, ça dure quand même depuis pas mal de temps. Après, quand vous regardez finalement la consommation d'eau de ces vaches, elle est énorme, et quand vous regardez le nombre de litres d'eau qu'il faut pour produire un litre de lait dans cette ferme, c'est quasiment le triple de la consommation d'eau pour un litre de lait produit en France.
Après ce détour par le désert saoudien, je vous propose de revenir en France.
Face à la somme de travail qui est fournie, mon revenu est dérisoire face à cette somme de travail. Et ma capacité de réinvestissement
est trop limité pour engager des gros investissements.
Les céréaliers ont des bons revenus, ils ont des grosses primes et ils ont des grandes surfaces. À un moment, il faut arrêter de soutenir les gens qui n'en ont pas besoin pour soutenir ceux qui font vivre les territoires et en plus avec des modes de production tout à fait acceptables au point de vue environnemental.
On va se battre pour ça, c'est normal, on est là depuis des générations, on va pas sacrifier alors que la France, l'Europe, le monde entier a besoin de nos céréales. Si encore on n'en avait pas besoin. Enfin, regardez l'évolution mondiale. C'est quoi la problématique de la faim dans le monde? C'est pas l'herbe du Massif central? Blé, maïs, soja, riz.
On a évoqué les effets sur l'environnement du productivisme agricole. Cette logique productiviste, FUE, elle a également des effets sociaux. Ce qu'on observe, c'est une polarisation de plus en plus forte entre, d'un côté, des agriculteurs très productifs et des petits exploitants qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir.
Oui, tout à fait. Le premier effet social, c'était l'effet recherché par la politique, les politiques publiques au départ, c'est-à-dire l'agrandissement des exploitations. Et qui dit agrandissement des exploitations dit disparition des fermes. Et donc, on a une diminution de 20% du nombre d'exploitations agricoles en France ces 10 dernières années. Donc, c'est très très important, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est effectivement une inégalité, une très grande disparité dans les revenus des filières. Alors c'est à la fois entre filières et au sein de chaque filière. Les filières qui s'en sortent le mieux, ce sont les porcins, les éleveurs porcins, les autres grandes cultures, c'est-à-dire pommes de terre, betteraves, etc. La viticulture, les céréales et oléoprotéagineux. Ça c'est le groupe de ceux qui s'en sortent bien, voire très bien. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour vous donner une idée. Et de l'autre côté, on a des éleveurs extensifs, bovins viande, ovins caprins, qui ont plutôt des revenus très bas, voire négatifs, et qui s'en sortent beaucoup plus mal. Donc, entre spécialisation agricole, il y a une forte disparité, et qui est en plus reflétée dans le soutien qui est plutôt apporté à ceux qui s'en sortent déjà pas mal. Ensuite, des disparités intra-filières, et elles peuvent être énormes, ces disparités. Si on prend le cas des éleveurs porcins, par exemple, on a les 10% les plus pauvres qui ont des revenus un peu à peine supérieurs au résultat nul, et 10% les plus riches qui sont au-dessus de 275 000 euros par an. Donc c'est très très important. Et on a la moitié environ qui sont au-dessus de 100 000 euros par an. Donc c'est quand même une filière qui est très rétributrice. Tandis que si on compare au bovin viande, par exemple, on a un revenu moyen et médian qui est autour de 25 000 euros par an, donc très petit, avec des pics à les 10% les mieux dotés dégagent un revenu autour de 50 000 euros, tandis que les moins dotés ont des revenus négatifs. Donc vous voyez des disparités très fortes entre spécialisés et à l'intérieur des spécialités.
Des disparités très fortes et des situations d'endettement parfois extrêmement inquiétantes, des situations où effectivement on a des agriculteurs qui sont complètement bloqués dans leur situation. Je crois que le taux d'endettement des agriculteurs était de 6% en 1960, il a atteint 43% en 2020, FUE.
Oui, absolument. Et c'est lié au modèle agricole qui est promu aussi, qui est basé sur une très forte mécanisation et une très forte dépendance à l'achat d'intrants. Ce qui fait que ça fragilise considérablement ces exploitations agricoles, ça leur rend les choses d'autant plus difficiles dans la perspective d'un changement et notamment d'une transition agroécologique. Les agriculteurs, même s'ils voulaient changer, ils sont complètement coincés par des taux d'endettement énormes.
Ah ben là, c'est parfait. J'imagine que vous avez des arrivées d'eau, d'électricité. C'est idéal.
France Culture.
300 000 francs, on n'est plus dans le même budget, là.
Ah oui, mais à ce prix-là, monsieur Jargeau, vous avez un bâtiment de 1000 mètres carrés. Neuf, équipé, utilisable toute l'année. Ça change tout. Puis je vous ai déjà dit, vous avez droit à une aide de l'État à la modernisation, à hauteur de un tiers d'investissement.
Entendez-vous l'écho?
Enfin, il y a 200 000 à aller chercher. La banque, elle suivra pas, hein.
Ah, mais je vous garantis qu'avec nous derrière, elle vous suivra. On assure le débouché. Et ça peut même aller très vite.
Tiphaine de Roquigny.
On l'a dit, la situation des agriculteurs en France et plus largement en Europe est de plus en plus compliquée. Le nombre d'agriculteurs et d'exploitations agricoles se réduit depuis les années 60. Cette tendance se poursuit aujourd'hui. On a évoqué l'endettement de toute une partie des agriculteurs. Et puis à cela s'ajoutent des contraintes environnementales avec la stratégie Farm to Fork qui a été adoptée en octobre 2021 par le Parlement européen et qui prévoit que l'Union européenne diminue de 50% d'ici à 2030 la consommation de pesticides et que 25% des surfaces agricoles soient cultivées selon les méthodes de l'agriculture biologique. Et ce sont des engagements qui ont contribué à provoquer la colère des agriculteurs. Écoutez.
On fait rentrer des produits, que ce soit de la cerise, de toutes sortes de produits d'Espagne ou d'ailleurs, qui sont pas travaillés dans les mêmes conditions que nous. Ils ont des produits phyto que nous, on n'a plus le droit d'utiliser depuis 10 ans. Alors qu'on prenne la grêle, bon, le gel, ça, on est tous à la même enseigne, on y est habitué, on travaille avec les intempéries. Mais être pénalisé parce que en Turquie, ils peuvent employer des produits pour lutter contre la mouche, et nous, ici, on ne peut plus l'utiliser. Eh bien, on perd 50% de la récolte.
Nos marchandises plutôt milieu de gamme, haut de gamme, ne se vendent pas chez nous et ont tendance à être exportées. Et en contrepartie, les marchandises d'entrée de gamme sont importées d'Amérique du Sud, d'Ukraine, etc., etc.
Les traités de libre-échange sont pour nous un réel cancer. On va importer de la viande qui vient de Chili, en l'occurrence, ou de Nouvelle-Zélande, qui ne répondent pas à nos normes. Et c'est juste la concurrence déloyale, hein. C'est inacceptable.
Voilà des témoignages recueillis fin janvier par le média en ligne Brut et puis par Arte. Que traduit, selon vous, ce mouvement de protestation des agriculteurs fouilleux?
Alors, je pense que, enfin, c'est compliqué à interpréter. Je pense qu'il y a au moins le reflet du grand désespoir d'une grosse partie des agriculteurs français qui n'arrivent pas à tirer un revenu convenable de leur activité. Ça n'empêche pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a d'autres qui tirent très 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 bien leurs épingles du jeu. Et il se trouve que ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu sont ceux qui sont à la tête du syndicalisme majoritaire, hein, la FNSEA, le CNJA. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi une contestation interne. Ça a été incarné fortement par la coordination rurale, par l'émergence de cette coordination rurale qui date des première réforme de la PAC et qui s'est affirmée pendant le mouvement de cet hiver, qui conteste justement cette mainmise de la FNSEA sur le dialogue avec l'État et sur la fabrication des politiques publiques.
Et oui, parce que depuis, il y a eu un projet de loi agricole présenté la semaine dernière au Conseil des ministres par Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. C'est un texte qui a été qualifié de fourre-tout et qui a été à la fois critiqué par la FNSEA, qui dit regretter un manque d'ambition sur la compétitivité, et critiqué par la Confédération paysanne qui déplore, je cite, un détournement de sens de la souveraineté alimentaire. Est-ce que ce n'est pas le signe que c'est un texte plutôt équilibré, fouilleux?
Alors, je m'avancerai pas à qualifier ce texte, hein, mais en tout cas, ce qu'on peut, il se trouve vraiment, il s'est mis au point dans les dernières semaines suite à ce qui s'est passé cet hiver. Et je pense que ce qu'il faut lire dans ce qui s'est passé cet hiver, c'est notamment la réponse à cette crise de malaise agricole qui est liée à une situation, et ça, cette histoire de revenus, ça a été répété, mais la réponse qui a été donnée et ce qui a été cranté dans le débat, et c'est ce qui, je pense, qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une opposition entre agriculture et écologisation des pratiques agricoles. On a répondu à cette mobilisation des agriculteurs par toute une série de dispositions qui visent à mettre en retrait ces normes environnementales et notamment le Green Deal et cette stratégie Farm to Fork que vous évoquiez tout à l'heure. Et ça, c'est un problème parce que en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que les éleveurs étaient ceux qui sont les éleveurs, et en particulier les éleveurs extensifs, hein, bovins, ovins, caprins, c'est ceux qui s'en sortent le plus mal, et c'est ceux qui ont été fortement mobilisés au départ dans ces mobilisations. Et en réalité, par exemple, eux, les pesticides, ça les concerne que très peu. Ils ont, sur 50% de la surface agricole utilisée pour des fourrages ou pour des prairies pour l'élevage, c'est seulement 14% de l'utilisation des pesticides en France. Les pesticides en France, c'est seulement 5%, pardon, excusez-moi. Et tandis que les pesticides en France, ils sont consommés au premier chef par les grandes cultures, 70% des achats de pesticides sont faits par les céréaliers, les grandes cultures, pour une surface agricole, enfin une part de la surface de 44%, et 14% par les viticulteurs, qui ont eux 3% de la surface agricole. Donc on a une disparité, si vous voulez, on a une réponse qui n'est pas du tout une réponse au problème de revenus des agriculteurs les plus mal lotis.
On va faire réagir peut-être David Makowski, pardonnez-moi de vous interrompre, Fouilleux, sur ce texte, ce projet de loi agricole présenté la semaine dernière.
Oui, je pense qu'il finalement ne répond pas à beaucoup d'attentes. Il ne répond pas tellement aux attentes concernant la compétitivité de l'agriculture, hein, qui effectivement, dans certains secteur est limite ou même assez mauvaise par rapport aux concurrents et on répond pas vraiment non plus aux attentes concernant les défis environnementaux et écologiques de l'agriculture française. Mais c'est vrai que sur l'impact environnemental, malgré tout, il y a eu un certain nombre de solutions qui ont été proposées ces dernières années, qui finalement n'ont pas eu tout le succès escompté. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés pour essayer de proposer des modes de production alternatifs, beaucoup moins dépendants aux intrants chimiques, hein, que ce soit les engrais ou les pesticides, qui ont été proposés, des méthodes de production alternatives. On a beaucoup parlé des systèmes de culture bio, et finalement le succès a été un peu mitigé. Sur le bio, il y a eu une forte croissance des surfaces cultivées en bio en France. Hein. Je crois qu'on atteint à peu près les 10% des surfaces cultivées françaises en système biologique. Donc c'est plutôt un aspect positif. Mais comme je l'ai mentionné en début d'émission, on arrive à une forme de stagnation de la demande, en tout cas pour certains produits. Hein. Il y a une surproduction bio pour certains produits, comme le lait, les œufs et quelques autres produits, qui ont du mal à s'écouler.
Peut-être parce qu'effectivement il y a un soutien insuffisant de l'État et vis-à-vis de cette agriculture biologique et Fouilleux, et je vous laisserai conclure sur ce point.
Oui, alors la façon dont l'État approche l'agriculture biologique, c'est évidemment pas comme une alternative, alors qu'effectivement ça pourrait être tout à fait une alternative, et il y a de nombreux scénarios de prospectives qui ont été mis au point par plusieurs groupes de recherche comme Solagro, l'IDRI, le BASIC, qui ont fait des scénarios et qui montrent bien qu'on peut tout à fait projeter à 2050 une agriculture sans produits chimiques de synthèse, sans engrais minéraux, et nourrir effectivement, comme le disait David tout à l'heure, avec une assiette différente, avec moins de produits animaux, qui permet d'accepter des baisses de rendement, puisque on aurait moins de céréales à produire pour nourrir toutes ces bêtes qui sont actuellement élevées pour faire manger trop de viande. Et donc, cette agriculture biologique, elle n'est pas du tout conçue par l'État et approchée comme cette alternative qui pourrait être une alternative envisageable, mais comme seulement un marché de niche, et ce qui explique très bien que ça n'ait pas pu marcher, puisque dans un marché de niche, il est construit par l'État avec des instruments de réglementaire, c'est-à-dire qu'on a un règlement, un cahier des charges qui définit ce qu'est l'agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture sans produits chimiques de synthèse, qui fait une liste de produits autorisés et de produits interdits, un certificat, un système de certification, un label protégé, et c'est tout. En fait, il n'y a pas d'aide directe à l'agriculture biologique. David disait que c'était plus de 10% maintenant à surface agricole utile en bio, et le pourcentage du budget agricole annuel sur les 24 milliards d'euros que j'évoquais tout à l'heure, un seul % va à l'agriculture biologique. C'est très très peu en aide directe. Et au contraire, non seulement on ne soutient pas l'agriculture biologique de façon directe, mais en plus on institutionnalise des concurrents de cette agriculture biologique. Ça a été le cas avec l'agriculture raisonnée, qui a été reconnue par l'État alors que ça ne demandait rien en termes d'efforts, notamment sur la question des pesticides, et où c'est aussi le cas de HVE, qui fait une concurrence, cette haute valeur environnementale dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Elle fait une concurrence à l'agriculture biologique, à la fois sur les produits dans les étals aux yeux des consommateurs, puisqu'ils l'interprètent comme une forme d'agriculture biologique moins chère, puisque ça coûte moins cher à produire, puisqu'on y met force pesticides. Et c'est aussi un concurrent de l'agriculture biologique par rapport aux aides directes.
Et on voit que le chemin est encore long,
très long avant
qu'il y ait un passage à un autre modèle agricole qui serait moins productiviste. Merci beaucoup Eve Fouilleux et David Makowski pour tous ces éclairages, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage avec Laura Michel, Eve Fouilleux, l'alimentation, quand l'alimentation se fait politique aux presses universitaires de Rennes. Demain, quand William Shakespeare nous parle d'économie, ce sera avec Marie-Céline Daniel et Dominique Guablanquet. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.